L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Dartford, tout près de la mégalopole londonienne. Nous arrivons sur le quai de la gare, lieu d'innombrables chassés-croisés depuis 1849. Nous sommes le mardi 17 octobre 1961. Le jour n'est pas encore levé et surtout il pleut. Un vrai stéréotype de temps britannique. Les locomotives vont et viennent, la plupart partent vers ou reviennent de Londres. La ville de tous les possibles, des meilleures écoles du pays aussi. Il est 7h30 ce mardi matin et sur le quai de cette gare, somme toute modeste, deux jeunes gens attendent de pied ferme le train qui va les conduire en salle de classe. L'un porte sous le bras un paquet de disques vinyles, l'autre a dans le dos une guitare. Le premier s'appelle Mick, le deuxième Kef. Bientôt, ils seront au panthéon de la musique mondiale. Aujourd'hui, ils ont 18 ans et bien entendu, ils l'ignorent encore. Suivez-moi sur l'humide quai numéro 2 de cet embarcadère vers la gloire. Il est 7h30, l'heure H de mon histoire. Keith Richards est un jeune homme dans le vent. Comme tous les jeunes types un peu populaires auprès de la gente féminine, il porte une coupe de cheveux mi-long qui lui cache les oreilles et lui donne un air presque sage. Une frange vient mourir juste au-dessus de ses deux yeux fins et petits qui pourtant ont un éclat tout à fait unique. Il semble cracher des notes de musique constamment. Le jeune homme se les gèle sur son quai de gare. Le thermomètre dépasse à peine les 6 degrés et surtout, une pluie fine ne cesse d'imbiber son uniforme scolaire impeccable, tout juste repassé par sa mère. Enfin, il s'est bien gardé de confier sa veste à la ménagère en chef, car son paquet de clopes est caché dedans. Il sort de son étui l'une de ses camelles et vient l'allumer avec un zippo qu'il enclenche d'une main. Un de ses potes lui a appris la combine à l'école. C'est généralement un petit tour qui plaît bien aux filles auxquelles il fait des clins d'œil dans les couloirs. Keith n'a rien d'un élève ultra doué, mais il est malin, il est perspicace. Il excelle surtout dans la musique, pour être honnête. Et la guitare qu'il porte dans le dos en est assurément la meilleure preuve. Il en est fier comme un officier peut être fier de son sabre. Et il passe tout son temps libre à la briquer et à gratter dessus. Ses influences sont nombreuses, mais son amour pour le blues américain dépasse le reste, avec tout en haut de la liste, un certain Chuck Berry. D'ailleurs, en parlant du loup, sur sa droite, un autre jeune homme qui semble avoir le même âge tient sous le bras quelques disques parmi lesquels il me semble reconnaître, ah oui, le dernier titre de Berry. Un type qui écoute de la bonne musique à Dartford. Tiens, c'est une denrée rare. Et en jetant nonchalamment son mégot entre les rails humides de ce début de matinée d'automne, Keith Richards se décide à alpaguer le jeune gamin maigre qui attend comme lui le prochain train. Une radio un peu plus loin tousse le dernier titre du musicien aveugle le plus célèbre de l'histoire. Hit the road, Jack, don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Ce titre est numéro 1 de l'année. Il n'en peut plus de l'entendre. Et pourtant, il swing. Les chaussettes noires au-dessus des chevilles qui se dandinent. Et, tout en continuant sa première furieuse danse de la matinée, il s'approche du jeune gars qu'il n'a pas encore vu. C'est une fois au contact que le visage de l'autre lui rappelle quelque chose. Non, non, mais oui, oui. C'est un vieux camarade de classe. Mick. Comment déjà ? Mick. Mick Jagger, oui, ben voilà, c'est ça, Mick Jagger. Ah, ils sont plus vus depuis un certain temps, l'école primaire. Mais ils se reconnaissent immédiatement. Ils se saluent, s'échangent les banalités d'usage. Salut, tu vas bien ? Et ta mère, comment elle va ? Enfin, vous voyez le genre. Jagger est issu du même milieu que Richards. Ils ont la même coupe de cheveux, quasi le même uniforme. Seul change le blason de l'institution. Et visiblement, ils ont aussi les mêmes goûts musicaux. Richards est ravi de retrouver un vieux camarade qui plus est, il partage son amour du rock des âges primitifs. Après tout, la base des bases, c'est le rhythm and blues des Afro-Américains. Ils ont fait naître le rock. Et en 1961, ils commencent à déchaîner les passions, tout comme un certain Elvis, qui deviendra bientôt le King. La relation qui se renoue entre eux ce matin sur ce qu'Edgar va façonner l'histoire mondiale de la musique. Oh, bien sûr, vous ne le percevez pas encore, tout comme les gens autour d'eux. Ce vieux banquier qui lit son journal en fumant sa pipe, par exemple, et cette gardienne d'immeuble en retard pour un rendez-vous chez son courtier en assurance. Tiens, leur train approche. Avec la dextérité qui accompagne la fougue de la jeunesse, les deux jeunes sautent, disque et guitare en avant dans le premier wagon et engagent la discussion qui va nous intéresser pour la suite des événements. Le wagon est bourré de monde. Des ados qui hurlent, des gosses qui pleurent, des employés de la City en costume-cravate qui fument cigarette sur cigarette sans jamais s'arrêter. Bref, le boucan est total. Tout à fait habituel, les matins en semaine, dans ces trains grinçants du Grand Londres du début des années 60. Mais tout de même, aujourd'hui, cela semble particulièrement animé. Peu importe, pour Mick qui vient d'avoir une idée de génie. Lui aussi, il est musicien, il chante. On lui a même dit que sa voix est si particulière qu'il ne pourra jamais rien faire avec. Un timbre unique, des intonations de phrases incisives et surtout une imagination qui déborde. 10 minutes de discussion et les deux vieilles connaissances se rendent compte qu'ils sont faits pour s'entendre musicalement parlant. Elle tombe à pic, cette rencontre, se dit Mick. La vie, parfois, est tout de même marrante. L'un de ses guitaristes vient de le lâcher. Ouais. Jagger est déjà le leader d'un groupe dont tout le monde, ou presque aujourd'hui, a oublié le nom. Little Boy Blue and the Blue Boys. C'est donc tout naturel pour lui de proposer la place vacante à Keith. Ce dernier est en train de lui énumérer ses influences jusqu'aux plus petits artistes de blues américains. Mick est conquis, tout de suite, par cette verve et lui demande illico une démo à la guitare. L'autre, sans se démonter, au milieu des pleurs des gamins et des exemplaires du Times du jour, sort de son étui sa plus belle arme et gratte, sans s'arrêter, pendant 10 minutes du Chuck Berry et du Muddy Waters. L'aura que dégage ce gamin et son aisance, le manche en main, fascine son jeune acolyte, subjugué par sa technique et la facilité qui semble être la sienne. Il est convaincu. Il faut que Keith rejoigne sa bande de Lascar. L'autre, qui n'en demandait pas tant, accepte sans sourciller son offre. L'histoire est en marche. Et alors que la fumée des cigarettes s'accumule dans un gros nuage qui se forme entre nos deux héros du jour, leurs sourires, eux, percent le brouillard qui stagne au-dessus de la capitale du royaume. Dartford, elle, ville d'origine de deux des plus grands rockers de l'histoire, ne les a pas oubliés. La bourgade de 80 000 habitants et son Central Park savent se souvenir de leur illustre enfant du pays. D'ailleurs, pour celles et ceux qui viendraient arpenter les quais de cette gare aujourd'hui à la recherche de l'inspiration ou d'un train vers une destination quelconque, vous pourrez remarquer une plaque commémorative sur le quai numéro 2, à l'endroit précis de la rencontre que je viens de vous raconter. Mais ça, messieurs, dames, c'est une autre histoire. Suivez-moi. Nous plongeons aujourd'hui au cœur d'un rock'n'roll déchaîné, à un moment où les sages Beatles trouveront leur anti-héros. Eux sont les gentils, les Rolling Stones sont les méchants. Les uns incarnent une certaine vision du paradis, comme le thé servi avec des scones à Buckingham Palace. Les autres, eux, sont voués à devenir les apôtres du mal, de la rébellion, des interdits. Notre histoire commence au début de l'année 1967. Nous sommes à Londres, capitale d'un royaume britannique en plein déclin, berceau de la reine Elisabeth II, des bus rouges, des taxis noirs et des Beatles. Ils sont au top de leur carrière, au firmament d'un succès qui ne cesse de grandir mois après mois, album après album. Nous sommes au cœur de ce qu'on appelle déjà la Beatlemania, la première du genre. Enfin, plutôt au cœur de la campagne qui entoure la capitale. Mais nous y reviendrons. 1967 est une année charnière dans l'histoire de l'industrie de la musique rock. Voyez plus tôt. En janvier sort The Doors, le premier album du groupe éponyme. En février, le classique des classiques du groupe américain Jefferson Airplane, Surrealistic Pillow. en mars. La profession de foi du groupe de Lou Reed et John Cale, de Velvet Underground et Nico. En mai, la première claque musicale sortie par Hendrix et sa bande, Are You Experienced? Et vous pensez que c'est fini? Ben non. Alors accrochez-vous encore un peu. Au mois de juin, arrive dans les bacs l'album Sgt. Pepper des Beatles, certainement le plus mythique d'entre tous. Et enfin, à la fin de l'été 1967, sort le premier 45 tours d'un groupe de petits jeunes qui décident de prendre le nom de Pink Floyd. Impressionné? Eh ben c'est pas tout. En décembre, un album psychédélico-possible des Rolling Stones intitulé « Des Satanic Majesty's Request » vient de les consacrer antéchrist de ces chers mécheux de Beatles. Bon, certes, l'album y est pour quelque chose, mais c'est surtout à cause d'un fait divers qu'il se voit propulsé à la première place des contenders des chouchous de la reine. Car oui, Elisabeth II adore les Beatles. D'ailleurs, 67 est aussi l'année où elle les reçoit pour le thé à Buckingham et où elle les décore. Ouais, tout ça s'est bien déroulé en 12 petits mois à peine, je vous l'ai dit. Fondatrice pour le rock, cette année 1967, mais plus encore, pour la musique en général. Le rock s'impose, et au-delà, en cette fin des années 60 galopante, le psychédélisme. Mais revenons à nos moutons, et à cette fameuse anecdote qui rangea les Rolling Stones là où ils doivent rester pour l'opinion britannique, c'est-à-dire tout près de Satan. Déjà à l'époque, vous allez le voir, on est soit pro-Beatles, soit pro-Rolling Stones. D'ailleurs, si vous-même êtes un fan de rock, on a déjà dû vous la poser cette fameuse question. Beatles ou Stones? Comme si, pour l'éternité, les deux groupes se livraient une guerre d'image. Les policiers contre les roublards, les petits génies contre les passionnés, tout un programme. Nous sommes donc en 1967, devant la maison de campagne de Keith Richards qui porte le nom de Redlands. Des journalistes sont là, installent leurs caméras, préparent leur direct. Les Stones défraient la chronique ce jour, et de la pire des manières. Une descente de police impromptue a conduit à l'arrestation de trois d'entre eux, dont Jagger et Richards, bien entendu. Face caméra, costume impeccable et cravate offerte par sa mère, le journaliste John Shelby attend le direct. Lunettes rectangulaires aux montures épaisses, les verres en demi-lune, son gilet à carreaux tranche avec sa cravate aux lignes obliques. Derrière lui, une petite foule s'est rassemblée et attend que la caméra s'allume. Son caméraman lui annonce « 3, 2, 1, go !» Le journaliste s'exprime alors en ces mots. L'avocat de la défense a dit qu'un journal avait informé la police que ça vaudrait le coup de faire une descente chez Richards pour trouver de la drogue dimanche après-midi. La descente a donc eu lieu ce dimanche soir. Dans la maison ont été retrouvées des traces de résine de cannabis et une pipe à cannabis y a été fumée. Et en effet, la police est venue cueillir toute la petite bande des Stones en pleine redescente d'une soirée bien arrosée en alcool et en drogue de tout genre. Ils étaient ce jour-là en compagnie d'un certain George Harrison, le guitariste des sages Beatles. Richards et Jagger, perçus comme les leaders du groupe, vont prendre pour l'exemple. 3 mois pour l'un, 1 an pour l'autre de prison. Et ferme, qui plus est, c'est l'incarcération. Les sales gosses du diable sont au bord de la rupture forcée. Leur destin paraît scellé. Richards est envoyé à Wormwood Scrubs, une prison aux allures de bagne. Fort heureusement pour lui et pour Jagger, envoyé à Brixton, ils ne resteront pas longtemps derrière les barreaux. Une campagne de presse sans précédent, accusant la justice d'avoir été trop sévère à leur encontre, est lancée. Et comme Keith Richards le raconte encore aujourd'hui, lors de sa première promenade, le moment durant lequel on fait tourner les détenus en cercle afin qu'ils puissent faire de l'exercice, le gars derrière lui lui tape sur l'épaule et lui annonce qu'il a entendu à la radio qu'il allait sortir. Soit un peu moins d'une journée de détention. Tout cela grâce notamment au rédacteur en chef du Times qui signe une tribune pour leur liberté d'expression qui va faire date. Cela va les ancrer dans le paysage. Le tout est mis en opposition avec la sensation d'oppression que ressent déjà, merci les Sex Pistols, la jeunesse anglaise. Nos deux héros sont donc sauvés d'une détention qui aurait mis en danger la suite de la carrière du groupe. Keith Richards dira aussi d'ailleurs que cette détention express, ce sont un peu nos lettres de noblesse. Une façon bien rock'n'roll de voir les choses. Mais il n'a pas totalement tort. Les monstres de marketing qu'ils sont déjà placeront dans leur tonitruant retour la figure qui leur colle le plus au basque, celle du diable. Ils vont en jouer d'une manière presque christique, géniale, naturelle et mystérieuse à la fois. Bon, bien entendu, il faut dire qu'ils sont bien entourés. Ce succès et cette communication au poil, ils le doivent à un homme en particulier. Les Stones ont depuis leur premier réel succès en 1965, 3 ans après leur formation, un manager à la vision unique, Andrew Oldham. Ce nom ne vous dit certainement rien et c'est tout à fait normal. C'est un homme de l'ombre, de ceux qui bâtissent les succès et les empires en nous montrant que rarement leur trombine sur le devant de la scène. Il a travaillé avec le meilleur, Epstein, le très célèbre coach des Beatles. Il est le premier à avoir eu cette idée géniale mais totalement folle. Il faut bien le dire que l'Angleterre méritait un autre groupe que le quatuor de Liverpool. Il choisit les Stones et les convainc d'être radicalement opposés en termes d'image, de style, de pratique aux Beatles. Et ça, ça marche. Jumpin' Jack Flash, qui est le premier titre à sortir après la sortie de prison des leaders, est un carton monumental. Nous sommes alors en 1968. La guitare est saignante, combattante. La bombe explose. Le phénomène Rolling Stones est né. Keith Richards est accompagné à la guitare par Brian Jones, l'un des plus doués de son temps. Le tempo de cette musique est dingue, renverse les foules et permet à une certaine tranche de la jeunesse du pays qui ne se reconnaît pas dans les Beatles de s'identifier. Le succès est total. C'est l'aube de l'âge d'or, le retour aux sources aussi. Jumpin' n'est que le single d'un album qui va faire date et fera la part belle à de superbes reprises issues du blues afro-américain d'un autre âge. C'est pas anodin. Ce Delta Blues, issu des terres longeant le Mississippi, était considéré par les Blancs américains des années 1920 et 30 comme l'expression de la musique du diable et de ses disciples. Cette musique est bien entendu incarnée par les Noirs qui, à l'époque, sont les parias parmi les parias. L'ombre de la légende du Delta Blues, Robert Johnson, plane sur eux tous. Vous savez, c'est celui dont la légende raconte qu'il aurait vendu son âme au diable en échange de la virtuosité. En tous les cas, avec les Rolling Stones, l'inspiration n'est ni cachée ni feinte, notamment dans le jeu de guitare de Keith Richards. Et les Stones vont se servir de cette image pour faire passer des messages, notamment chez les jeunes, comme je vous le disais. Le carton est total. Cela fonctionne d'autant mieux avec le public que la société voit naître une recrudescence de l'intérêt pour les forces occultes qui va de pair avec le rock'n'roll. Certains cinéastes expérimentaux, surfant sur l'idée d'un satanisme qui prend toute sa place, vont se servir de ces rockers pour en faire des figures de proue du mouvement. C'est le cas de Keith Richards et Mick Jagger. Nous sommes alors à la fin des années 60. Les Beatles voient leur carrière se terminer petit à petit. Abbey Road sera bientôt dans les bacs et leur dernier morceau aussi. Les Stones, eux, commencent à prendre beaucoup plus de place. Leur célébrité, cependant, va prendre un tour nouveau à la suite d'une tragédie. L'un de leurs membres s'apprête à ouvrir le bal du fameux club des 27.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, leur hache se penche sur le destin d'un groupe mythique, plus encore que tous les autres, ou presque. Les Rolling Stones, formés en 1962 par 2 amis d'école primaire, Keith Richards et Mick Jagger. Les membres du groupe deviennent vite les anti-héros des Beatles, qui ont une image beaucoup plus nette et propre. Les Stones en jouent, flirtant avec des milieux qui se revendiquent satanistes, et les paroles de leurs chansons sont loin d'être anodines. Tellement qu'alors qu'une tragédie va se produire pour le groupe, ces 2 leaders seront bien malgré eux mis en porte-à-faux. Nous sommes à la fin de l'été 1968. Jean-Luc Godard, figure de proue du nouveau courant cinématographique à la française, est sur tous les fronts. Son nouveau projet, One Plus One, est l'un des plus personnels de sa carrière. C'est un documentaire voulu comme un alliage entre la création et la destruction. Le cinéaste est au studio Olympus pendant 5 jours pour une seule chose. Enregistrer les Stones. Le réalisateur a déjà la verve et le verbe qu'on lui connaît. Toujours au bord de l'explosion, les émotions en étendard. Une sensibilité qui s'exprime chez lui souvent par la colère et les coups de sang. Combien de fois n'a-t-il pas traité une assemblée de cons ou d'autres noms d'oiseaux ? Aujourd'hui, celui qui porte un costume couleur beige et ses célèbres lunettes noires est d'excellente humeur. Sûrement l'air anglais, se dit-il en sifflotant. Il vient de serrer la main de Keith Richards et celle de Mick Jagger. Il est aux anges et le groupe avec. Ils avaient eux aussi besoin de la tribune qu'il est prêt à leur offrir. En France, c'est la révolution des étudiants. Godard, tout de suite, souhaite se joindre à la protestation afin de les soutenir. Il est alors en tournage et demande qu'on arrête en soutien aux insurgés. Il répond aux protestations. Je vous parle de soutenir les étudiants en colère, vous me parlez travelling et gros plans, vous êtes des cons. Voilà. Voilà qui était Jean-Luc Godard. Un colérique aux yeux cachés derrière des lunettes de soleil bien noires, bien profondes. Son regard vous brise un homme, mais je vous le répète, aujourd'hui notre bonhomme est de bonne humeur. Il ne peut pas le savoir, mais son travail fera office encore aujourd'hui de témoignage rare et unique. Il a filmé la naissance de l'un des titres les plus mythiques du groupe, Sympathy for the Devil. Derrière sa caméra, il offre au public tout le génie de la composition Stones. Au départ, voulu comme une ballade folk, les paroles de Jagger manquent de percussion. Alors, comme une suggestion lancée presque à la volée, l'impresario du groupe balance qu'il faudrait un groove par-dessus la guitare, un jeu de percussion, si vous voulez. C'est la naissance de ce morceau de légende. Keith Richards compose lui-même la ligne de basse et improvise sous les yeux médusés de Godard, son solo de guitare certainement le plus célèbre. Le guitariste, à la réputation déjà presque légendaire, le sort comme ça, en total impro, en même temps qu'il fume une cigarette. Jagger pose sa voix sur l'ensemble et c'est l'extase. Sympathy for the Devil, c'est la réponse diabolique au non moins célèbre All You Need Is Love des Beatles, pacifique mise en bouche d'un monde qui s'embrase. Les idéaux hippies sombrent avec la guerre du Vietnam qui s'intensifie. Les Kennedy sont morts, assassinés tous les deux, comme Martin Luther King. Les États-Unis s'embrasent. L'Europe quitte sa peau de dominante pour devenir un vieux charron ronnant au coin d'un feu qui s'éteint. Les références y sont nombreuses. Des Romanov à la chute de Jésus et Jagger est sans cesse en double fil. Il joue un personnage, mais se joue aussi de lui-même dans cette interprétation endiablée. Il consolide finalement ce que les gens peuvent penser de lui. Cynique et diabolique, l'impertinent provoque encore. Et c'est le premier d'une série de chefs-d'œuvre absolument dingues. Seul un membre du band est plus à l'écart, Brian Jones. Le mythique guitariste du groupe est en pleine descente aux enfers. Et personne ne semble vouloir lui tenir la main pour le sauver. Il est tellement mal en point que sur ses parties de guitare, on coupe le micro d'enregistrement. Alors, je vous laisse imaginer le camoufler. Voilà l'affaire que nous allons évoquer quelques instants. Le cas Brian Jones. Nous sommes le 9 juin 1969. Le génial Brian Jones annonce qu'il quitte les Rolling Stones. Il écrit qu'à la suite de divergences musicales, leur collaboration s'arrête. En réalité, la vérité se cache ailleurs. Un consortium mené par Jagger et Richards le pousse dehors et ils ne vont même pas lui annoncer personnellement la nouvelle. Non, c'est le plus gentil, Charlie Watts, le batteur futur éleveur de chevaux au flegme et à la technique légendaire qui s'en charge. Brian Jones semble reprendre pied quelques mois, mais ses nombreuses addictions finissent par le rattraper au finish. Rien de surprenant lorsqu'on prend le temps d'étudier la vie de débauche du groupe qui a pignon sur la scène de Satan himself. Brian Jones sera retrouvé mort au fond de sa piscine le 3 juillet 1969 à 1h du matin. L'enquête conclut à une overdose ayant entraîné une noyade ou à une surconsommation de drogue. Officiellement, c'est le terme « mort par accident » qui apparaît. Mais le musicien s'est tellement déglingué la tête que son cœur et son foie sont hypertrophiés. Phénomène qu'on retrouve après un usage massif de drogue ou d'alcool. Les rumeurs pourtant vont bon train. La première, et principale d'ailleurs, de cette théorie du complot est qu'on aurait pu pousser Jones dans sa piscine après l'avoir forcé à boire en grande quantité. Et qui sont les coupables tout désignés? Jagger et Richards, bien entendu. Les rapports tendus qu'ils avaient avec Jones en seraient le mobile. Il faut dire qu'en effet, leur relation est plutôt froide depuis quelques années. Enfin, de là à le tuer. Ce n'est pas sérieux, bien entendu, mais ça va considérablement renforcer l'image de groupe du diable dont bénéficie déjà la joyeuse bande de dépravés. Cette mort le fait entrer avec fracas dans la légende mystique du rock. Le clan des 27, que je citais tout à l'heure, lui, accueille un nouveau membre. On appelle ainsi tous les jeunes artistes morts tragiquement à l'âge fatidique de 27 ans. Jones y attendra Joplin, Hendrix, Kurt Cobain et Amy Winehouse. C'est la suite d'une longue et insoutenable série de décès soudains et mystérieux. Oui, Jones n'est pas le premier. Le premier, c'est Robert Johnson. Vous vous souvenez? Le bluesman qui a vendu son âme au diable. C'est lui qui a ouvert le bal. Étrange, vous avez dit? Deux jours après la mort de Brian Jones, les Stones ont un concert dans Hyde Park, prévu de longue date, gratuit. Ils vont y rendre un hommage à leur ancien comparse, jouant son titre préféré, accompagné d'un lâcher de colombe. Bien plus tard, dans un livre, Jagger tracera ces quelques lignes. Nous avons essayé de rester dans la droite ligne du rhythm and blues. Brian a su nous en faire sortir, avec parfois de très heureux résultats. On a connu hommage plus appuyé, je vous le concède, mais tout de même, on est bien loin des soi-disant pulsions sanguinaires du duo de leaders à l'égard de Jones. Cet événement, à l'aube des années 70, est en tous les cas annonciateur d'une période plus sombre. Les années noires, comme a pu les nommer Keith Richards, se profilent pour l'un des plus grands groupes du monde. Les Beatles jouent leur chant du cygne, car de nouvelles sonorités viennent percuter leur succès et le bateau à la langue pendue, lui, commence à tanguer.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, l'heure H est au cœur du tourbillon Rolling Stones. Roi du rock'n'roll, considéré comme les apôtres du mal en personne, ce groupe, aux influences blues nord-américaines, ne cesse de mettre des coups de pied dans la fourmilière depuis les années 60. Le passage à la décennie 70 se fait cependant dans la douleur avec le décès de leur tout juste ex-guitariste Brian Jones. Un virage est à prendre. Et si les 70s débutent par des tournées torrides, gare au mirage et aux illusions. Nous sommes le 31 août 1989. Les vieillissants, mais non moins énergiques, Rolling Stones lancent ce soir la tournée qui accompagne la sortie d'un album, Steel Wheels. Une rédemption, que dis-je? Une renaissance. Devant un parterre de fans médusés ce soir-là par ce retour qu'on n'attendait plus, Keith Richards s'éclate sur le riff de Brown Sugar et Jagger y fracasse ses cordes vocales. Les deux apparaissent complices, heureux de jouer ensemble et inspirés. Enfin, le retour en grâce, après plus d'une décennie dans les antres des enfers et qui aurait tout à fait pu mettre à mort ce groupe si particulier. Le saxophoniste du morceau fait son solo. Richards, qui transpire à grosses gouttes, ne peut s'empêcher de se remémorer encore et encore la traversée du désert qu'il a et qu'ils ont tous vécu. Il y a 4 ans encore, c'était la guerre totale. Verdun au pays du rock. On se tirait les uns sur les autres à balles réelles. Et vous pouvez me croire. Vous n'avez pas idée de la profondeur de cette histoire méconnue et pourtant bien plus sombre des Rolling Stones. Les premières années de la décennie 70 se passent pour le mieux. tournée au bus rempli de filles nues, concert devant des dizaines de milliers de personnes, compte en banque qui explose, et le combo drogue-alcool. Richards devient un fantôme, totalement sous l'emprise de l'héroïne, et c'est Jagger qui, à bout de bras, soutient la franchise. En tournée, le guitariste virtuose ne tient plus sa place. En Allemagne, il s'évanouit un soir sur scène à Francfort. Le lendemain, il s'endort littéralement en plein milieu d'un morceau. C'est l'hécatombe. Le batteur Charlie Watts, lui, s'enfonce dans une dépendance à l'alcool et est lassé des conflits qui naissent et perdurent entre les deux principales têtes du groupe. En studio, c'est guère mieux. Tension, divergence d'opinion, absence répétée de Richards. Jagger en a sa claque et décide, à la surprise générale, de quitter le groupe avec perte et fracas, annonçant qu'il ne jouera plus jamais avec eux. Nous sommes alors au début des années 80. Il faut le comprendre. Richards, sorti de son addiction, revient au premier plan. L'inspiration est là. La volonté de reprendre sa place de co-leader aussi. Mais enfin, le chanteur qui a assuré le service après-vente pendant plus de 10 ans trouve ça un peu facile de se coucher de la sorte. Non. Ça ne passe pas. C'est la fin de leur collaboration que tout le monde pense définitive. Des milliers de fans sont en pleurs à l'annonce du départ de Jagger qui les dézingue à tout va et part chanter au Live Aid avec Bowie. Deux autres membres des Stones viennent y jouer séparément. Non, là vraiment, c'est la guerre totale. Tout le monde les voit morts, irréconciliables. C'était sans compter sur le poids que peut peser dans la balance une collaboration vieille de plus de 20 ans et l'appât du gain. L'année 1989 est donc bien plus que celle du retour au premier plan. C'est une renaissance et l'annonce du nouveau temps à venir, celui de tous les records. La tournée de 1989 permet au groupe d'engendrer une recette totale complètement folle de plus de 270 millions de dollars. Le chiffre fait tourner la tête et permet de mettre de côté les derniers soucis d'égo. Les Stones sont de retour, mais se laissent du temps pour mener à part leur carrière solo à la fin de la tournée. Les tout jeunes papis se fatiguent aussi plus vite. Ils font monter la sauce alors que tout le monde attend des annonces concernant la suite de leur carrière. Virgin Records les signe pour 3 albums et 44 millions de dollars. La fin des années 90 est prolifique en termes de shows et de nouveaux morceaux. Au début des années 2000, afin de célébrer leurs 40 ans de carrière, le groupe débute une nouvelle tournée mondiale. Elle durera 2 ans, de 2002 à 2004. Pendant que leur batteur soigne un cancer de la gorge, les deux leaders se retrouvent dans le magnifique château de Fourchette, propriété de Jagger, pour écrire de nouveaux titres. Le pilier rythmique de la bande se remet doucement et les Stones démarrent, après la sortie d'un énième album, une nouvelle tournée mondiale en août 2005. Ce sera la plus lucrative de l'histoire de la musique. Imaginez, plus de 500 millions de dollars de recettes, une pure folie. La décennie 2010 est celle durant laquelle le groupe délaissera la scène. L'incroyable longévité de la bande, pourtant, perdure encore, balayant d'un revers de guitare tous les pronostics de retraite. Une nouvelle tournée géante a lieu pour les 50 ans de carrière du groupe qui sort en 2016, un album aux consonances blues et ancestrales qui fait mouche, encore. Après tant d'années, bien entendu, l'heure n'est plus au renouvellement. On prend les vieilles recettes, les meilleures, et on recommence. Ce sera aussi l'année d'un magnifique concert à la Havane, où l'organisation revendique la présence, asseyez-vous, de plus d'1,2 million de personnes. Un record total. Le groupe, déjà certainement numéro 1 de l'histoire, affirme sa position avec vigueur et force. La fin des années 2010 est ponctuée de tournées, tant en Europe, de Dublin à Varsovie, en passant par Paris qu'aux États-Unis. Le temps ne semble pas avoir d'autre prise sur eux que la main des rides. Quelle incroyable longévité pour ces hommes qui ont connu la débauche dans leur jeunesse et qui sont sortis avec brio de combats contre des addictions en tout genre. Mais vous le savez comme moi, personne n'est immortel. Pas même les Rolling Stones. La pandémie de Covid, elle aussi, vient percuter de plein fouet la machine commerciale du groupe et les force à s'arrêter. Et alors qu'en 2021, une nouvelle tournée doit démarrer, Charlie Watts, le bon vieux batteur historique de la bande, annonce qu'il doit y renoncer. Oh, rien de grave, dit-il, juste le besoin de se reposer après une intervention médicale. C'est sa première absence sur scène avec le groupe depuis 1963, une éternité. Et la mort finit par le prendre sous son aile, lui, l'amoureux du blues et des purs sangs. Il s'éteint dans un hôpital de Londres le 24 août 2021. Un grand choc tombe sur la tête de la plupart des fans du groupe et sur les musiciens eux-mêmes, qui voient là le départ définitif d'un membre historique. Nouvelle rumeur de retraite, même réponse, le retour sur scène. Les Stones ne se sont pas arrêtés après la mort de Jones ou le départ de certains de leurs musiciens. La mort de Watts ne sera pas non plus une exception. Ils ont d'ailleurs enflammé la scène du stade Roy Baudouin le 11 juillet 2022. Pour combien de temps encore? Nul ne le sait. Mais tous les amateurs de rock en profitent encore avec bonheur et émotion. Les rois du rock ne sont pas prêts de mourir. 240 millions d'albums vendus dans le monde. 48 tournées, dont 3 parmi les plus lucratives de l'histoire. L'héritage est immense. Et le groupe fête en ce début de décennie ses 60 ans d'existence, rien que ça. Les Rolling Stones. Lorsque ce nom claque au milieu d'une conversation ou apparaît sur notre smartphone, lorsque les riffs endiablés de Richards ou la voix si particulière de Jagger se font entendre à la télé, à la radio ou dans des films, chaque fois, cela ne laisse personne ou presque indifférent. Au-delà de cette histoire de diable, de drogue, de sexe et de rock'n'roll, l'aventure Stones est avant tout humaine. Elle est celle d'une incroyable longévité et donc d'un éternel recommencement musical, aux influences multiples et à la puissance toujours plus assurée. Aventure humaine aussi, puisque ses membres historiques, depuis des dizaines d'années, assument leurs différences, leurs engueulades, leurs divergences, en misant sur ce qui les rapproche pour construire. Il suffit de regarder l'un de leurs concerts pour le comprendre. Entre Jagger et Richards, difficile de voir une complicité qui crève l'écran, du moins. Le fougueux guitariste est bien plus joueur avec les autres musiciens, tandis que le frontman se place plus devant. Pourtant, il est indéniable que leur façon de dialoguer la plus efficace est la musique. Les variations en live de Richards sont souvent perçues par le chanteur qui, ce n'est pas rare, se retourne dans un sourire. Pas un mot. D'ailleurs, ils ne se présentent plus sur la scène face au public. C'est l'avantage d'être les papis du rock. Tout le monde les connaît. Et leur nouvelle génération de fans, elle, est arrivée bien après toutes ces zones de turbulence. Souvent, les grands-parents ont transmis leur passion à leurs enfants qui, depuis, ont fait de même avec les leurs. Ce renouvellement du public est incontestablement la preuve que la machine Stones a encore de beaux jours devant elle. Le départ de Watts pour le paradis du rock fut tout de même un véritable coup dur, et c'est peu de le dire. Mais il ne fait aucun doute, aucun, que le groupe arrivera à s'en relever. Ils ne sont pas les premiers à avoir traversé de telles épreuves. Les plus grands groupes s'en sont relevés avec brio. Pensons à AC/DC, à Queen ou plus récemment, les Foo Fighters. Quoi qu'il en soit, les Stones sont assurément le seul groupe qui peut se targuer de ne pas être le symbole d'une génération, mais bien de plusieurs. Sur le terrain de la longévité, il n'y a pas match avec leurs rivaux de toujours que sont les Beatles ou les Who. C'est aussi ce qui, au fond, parfois interroge. Comment est-ce possible qu'après tous ces excès, Jagger et Richards puissent être encore debout? Un pacte avec le diable, sans doute. Je vous propose aujourd'hui de nous quitter avec une citation d'un artiste tout aussi immense que les Stones. Une phrase qui pourrait parfaitement être l'épitaphe d'une statue de Jagger ou de Richards. Son auteur et nul autre que David Bowie, qui dans les années 70 galopantes avait cette description de la musique rock. Le rock a toujours été la musique du diable. Je sens que nous ne faisons que proclamer quelque chose de plus ténébreux que nous-mêmes. Alors, s'il fallait une morale à cette heure H, ce serait certainement celle-ci. Les Rolling Stones, finalement, auront passé aux générations futures leur musique assumée comme diabolique. Une belle allégorie qui nous montre que le mal lui-même peut se cacher derrière chacun d'entre nous. Voilà pour ce récit que j'ai eu le plaisir de partager avec vous grâce à la plume de Valjean.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.